l'impôt inconditionnel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? Parce que... bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir un sentiment d'amour, d'ouverture de personnes que je ne connais pas. C'est instantané, comme ça. Donc, effectivement, là, je peux comprendre que ce soit de l'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a aucune attente. Par contre, dès qu'il y a une attente, comme, que ce soit au niveau amical, hein, comme par exemple, hier, il y avait mon ami, Claire, j'aime bien, j'adore quand on se rencontre, on a un tas de choses à se dire, etc. Il y a une attente, ne fût-ce que l'attente du plaisir de partager des choses. Donc à ce moment-là, ce n'est plus un amour inconditionnel, ça devient conditionné par une attente qui doit être satisfaite.
C'est-à-dire que si vous ne partagez pas des choses, ça ne va pas, vous serez frustré.
Pourtant, un amour inconditionnel existe, je le sens bien.
Mais, oui, mais tu es l'amour inconditionnel qui ne se connaît pas lui-même.
Et pourquoi certaines personnes peuvent me révéler cette particularité et pas d'autres?
Tu ne fais que l'expérience d'un amour conditionné, déjà à ta petite personne.
Oui.
L'amour, dans sa totale réalité, n'est pas connaissable d'une certaine manière. Alors on peut par contre faire l'expérience, et ce n'est que l'expérience de l'amour inconditionnel. Mais on sait tous ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est la manière dont on aurait aimé, dont on voudrait être aimé et dont on aimerait aimer. Et si on regarde de ce côté-là, ben comment est-ce qu'on a toujours voulu être aimé et comment est-ce qu'on a toujours voulu aimer? Au fond du fond. C'est comme tu dis, il n'y a pas d'attente, effectivement. Mais aussi des caractéristiques positives, c'est-à-dire qu'on accepte l'autre tel qu'il est, ses différences nous enrichissent, sont un étonnement, on crée une ouverture, sont aimés, ses défauts aussi, enfin ce qu'on appelle ses défauts, parce qu'il n'y a plus de défauts, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de possibilité d'estimer qu'il puisse y avoir une erreur quelque part. Parce que l'amour inconditionnel, par définition, aime tout, puisqu'il est inconditionnel, il n'est pas lié, il n'y a pas une condition, c'est-à-dire que même un acte de haine n'est pas rejeté. L'amour est le même. C'est grave, dur. Tu vois, c'est difficile, ça grince à l'intérieur. Et pourtant, c'est comme ça. Parce qu'il n'est pas vu comme un acte de haine, il est vu comme de l'amour. S'exprimant de cette manière-là, à cet instant-là. Donc toi, ça, c'est pas seulement aimer comme ça quelqu'un qui passe dans la rue. L'amour inconditionnel n'a pas besoin d'objet pour être. Il ne peut pas ne pas aimer. Le soleil n'a pas besoin de la terre pour briller. Il ne peut pas ne pas briller. Et quand il brille, il ne cherche pas à faire pousser les plantes. Ça se fait de soi-même. L'amour inconditionnel, c'est pareil. Il n'a pas besoin d'avoir un objet à aimer pour être l'amour. Et évidemment, dès qu'il se pose sur un objet, il ne peut pas ne pas l'aimer. Et quand je dis objet, je parle d'une personne, d'un objet, d'une pensée, de n'importe quoi. Tout ce qui peut être perçu.
Quand on parle d'amour, c'est automatiquement inconditionnel.
Conditionnel?
Inconditionnel.
Ben, ça dépend. Dans les conversations classiques entre les gens, ils parlent de « je t'aime »
et c'est hyper conditionné, justement.
C'est hyper conditionné.
L'amour dans l'absolu, c'est...
L'amour dans l'absolu, c'est inconditionnel.
C'est inconditionnel.
Oui, c'est inconditionnel, c'est pur, c'est total, c'est sans objet, sans condition, bien évidemment. Oui. Mais c'est un mot. L'expérimente ou non, tu l'es. Tu ne peux pas ne pas l'être.
C'est ce qui nous empêche de ressentir, ce sont tous les voiles, les filtres du mental.
Tu confonds à nouveau être et ressentir. Être et faire l'expérience de l'être.
Pourquoi tu dis que je confonds?
Parce que l'amour ne se connaît pas lui-même, l'être ne se connaît pas lui-même, l'inconnaissable ne se connaît pas lui-même. Il n'est connu que par sa manifestation. Donc c'est toujours un après-coup, ça apparaît simultanément, mais ça ne peut pas, sa réalité ne peut pas être connue. On n'en a que les reflets. Parce que pour que ce soit perçu, il faut un... percevoir, tout ça c'est tout des bêtises, mais je veux dire... tu perçois cela qui perçoit l'amour inconditionnel. Donc les deux sont erronés, les deux sont illusoires. Tu dis « je ressens l'amour inconditionnel », mais cela qui ressent l'amour inconditionnel, il est en amont de l'amour inconditionnel dont tu parles.
Oui, mais ça c'est un langage, simplement. On est habitué à dire « je ».
Non, mais même si tu dis « ça ressent l'amour inconditionnel », si tu dis « il y a vécu d'amour inconditionnel », le fait qu'il y ait un vécu d'amour inconditionnel est constaté. Mm-hmm. Donc c'est une expérience. Et cela qui le constate est, on peut dire, en amont de l'expérience d'amour inconditionnel.
Oui, oui.
Donc cet amour inconditionnel étant une expérience, il étant constaté par quelque chose qui est en amont de lui, ne peut pas être l'amour inconditionnel, ne peut pas être ce qui est. Tu vois ce que je veux dire?
Non. Non, là, je suis plus.
C'est tellement clair pour moi, c'est curieux. Tu fais une expérience de, je sais pas moi, le pied par terre. Oui. Cette expérience, elle est constatée. Elle est constatée par quelque chose qui constate le pied par terre. Et qui est forcément en amont. De l'expérience, je veux dire, l'expérience, on ne peut pas dire qu'elle est faite par quelqu'un, mais elle est constatée, donc tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas être cela que tu constates.
Ah oui. Ah oui, je comprends.
Donc si tu fais l'expérience de l'amour inconditionnel comme il est constaté, ce n'est pas l'amour inconditionnel, c'est un reflet. Cela qui le constate et que tu ne ressens pas comme étant, que ne ressens pas forcément comme étant de l'amour inconditionnel, est plus de l'amour inconditionnel que l'expérience d'amour inconditionnel. D'une certaine manière. En même temps, ça ne veut rien dire parce que tout est de l'amour inconditionnel. Même ce qui n'en a pas l'air. Et même ceux-là qui constatent l'expérience du pied par terre ou l'expérience de l'amour inconditionnel, ceux-là qui le constatent est connu.
Donc il n'existe pas non plus.
Donc il existe, mais il n'est pas. C'est aussi une apparition.
Attends, il existe, mais il n'est pas.
Il existe, tu le connais.
Oui. Enfin, il existe.
Un rêve existe, un mirage existe. Tu ne peux pas nier la réalité d'un mirage, ou d'un rêve, ou d'un film. Mais ça n'est pas une réalité définitive.
Ce raisonnement appliqué à tout dans la vie amène au vide.
À une impression de vide, à une expérience de vide.
Il n'y a plus rien à constater, il n'y a plus rien à vivre, il n'y a plus rien à ressentir.
Mais qu'est-ce que je fais là alors?
Mais oui, évidemment, ça reste d'égo.
Ouais, ça doit être ça.
Je sais pas.
On va aller en parler à tous les autres. On va faire un meeting pour voir ce qui reste d'ego. C'est la manifestation de l'être. L'être n'a pas besoin de l'idée d'un moi pour se manifester. Il se manifeste de fait. Le soleil n'a pas besoin qu'il y ait des hommes sur la terre qui sont réunis ici aujourd'hui pour briller. C'est juste pas le même niveau de réalité. Tu peux pas. C'est juste une, c'est une question de perspective. La physique quantique peut comprendre la physique newtonienne, cartésienne, mais l'inverse ne peut pas être vrai. N'est pas vrai. C'est pareil. Ce qui est inclut, ce qui existe, mais ce qui existe n'a absolument pas accès à ce qui est. C'est pas possible dans l'autre sens. Ça n'a pas accès, en même temps il l'est. Pour oublier.
En suivant ce raisonnement, tout témoignage d'éveil n'est pas la réalité.
Tout ce qui peut être connu, perçu, est une réalité non définitive. Existentiel.
Subjectif.
Il faudrait définir subjectif. Existe mais n'est pas. Cela qui le porte est. Cela au sein duquel tout ce qui peut être connu apparaît est.
C'est pour ça que ce qui est important, c'est les silences entre les mots, non ?
Tu as le silence qui préexiste à tout son et qui permet à tout son d'être, d'exister. C'est avant tout avant, si tu veux. C'est, donc c'est, ça ne peut pas être connu. Et cependant, quand on en parle comme là, bah, ça l'évoque. Quoi. On en a le parfum.
Oui, les mots aident.
Les mots sont des pointeurs. C'est là où tu peux aller jusque-là, c'est-à-dire prendre refuge, on pourrait dire, à cette frange, la frange du connu, tu vois, là où on abandonne tout connu. Là où tout connu est laissé, déposé. On ne s'en préoccupe pas. Et on est juste avec... Ah, mais tout ce qui est connu est connu. Qu'est-ce qui le connaît ? Là, on sait que c'est inconnaissable. Et on sait que c'est pas rien.
On dit que l'œil ne peut pas se voir lui-même.
Exact.
fait qu'on bascule dans qu'est-ce qui est.
Ça se fait, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu ne peux rien faire, toi. À un moment donné, ça arrive. Simplement, il est simplement plus fréquent que cela se produit chez des gens qui sont intéressés par tout ça, ce qui est logique. Si tu es intéressé par les maths, que tu en fais, forcément, tu vas avoir des connaissances en mathématiques. Pareil pour tout le reste, et là c'est un peu pareil. Mais le fait d'être intéressé par les maths ou par ça, ne t'appartient pas, ça arrive. Tu ne peux rien faire pour que ça se produise.
De ce qui est vraiment l'amour, qui est en fait en nous, enfin qui est partie intégrante de l'être, de l'être-té si on veut.
Qui est l'être-té?
Qui est l'être-té? Donc nous on n'a qu'une pensée, j'aime ou je l'aime. À partir de là, dès qu'on a cette pensée, il faut revenir au moi parce que alors on va ressentir ce confort, ce plaisir. Mais si on veut vraiment s'en sortir, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui me fait dire que j'aime? Non?
C'est trop.
Ça va trop.
D'abord, c'est pas seulement une pensée, c'est aussi une expérience.
C'est une expérience.
Le plus souvent, c'est une expérience qui, après coup, est étiquetée amour.
Oui.
Tu vois? Mais il y a d'abord une expérience.
Et alors, quand je l'étiquette, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là où je me dis. Tiens, je suis revenue au moi, et est-ce qu'il ne faut pas à ce moment-là essayer de. Pas de prendre du recul par rapport à moi, mais de. Je sais pas comment on fait en fait. Si on voit la pensée moi, si on. Parce que tout ça, ça paraît très superficiel.
L'expérience d'aimer quelqu'un ou quelque chose n'est pas faite par un moi.
C'est quelque chose.
Elle est après coup récupérée par l'idée d'un moi. Enfin, c'est des mots, hein.
Oui. Et quand cette idée du moi qui arrive et qui dit « Ah, je l'aime. »
Je l'aime, oui.
Voilà.
C'est une idée.
Voilà, c'est une idée. Alors, quand c'est une colère, on va essayer de voir, enfin, de sentir la colère, de voir quels effets elle a en soi. Et en fait, comme on va se rendre compte que finalement, ça n'a pas d'effet dans son corps, de toute façon, elle s'en va et puis on se dit « Bah, il n'y a plus rien. » Et après, on fait passer notre route.
Oui.
Là, pour l'amour,
sauf que c'est pas l'amour qui a besoin d'être regardé là.
C'est
l'idée je l'aime.
Oui.
C'est l'idée je l'aime.
Mais parce que celle-là, on va se l'approprier plus que la colère. La colère, on veut bien la guérir.
Voilà. Parce que oui, c'est parce qu'il y a des expériences qu'on recherche et d'autres qu'on refuse.
Voilà. Mais alors les expériences que je recherche, parce que le souci c'est maintenant que j'ai mis le mot je l'aime.
Oui.
Qu'est-ce que je fais de ce je?
Et tu regardes, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a de l'amour ou est-ce qu'il y a un moi qui aime quelqu'un?
Quand je pense je l'aime, il y a la phrase. Et l'amour va se mettre entre parenthèses à ce moment-là. C'est je l'aime, paf, je suis plus dans le ressenti, j'ai mis un mot. Après, ça peut être très court. Mais
un mot qui va créer un ressenti.
Un mot qui va rappeler le ressenti, oui.
Et qui va en créer un autre. C'est moi qui l'aime. Et je l'aime lui. Il y a appropriation.
Ça veut dire qu'il y a aucune
volonté de non-appropriation.
Il y a une volonté d'appropriation qui va créer quelque chose. Une volonté de quelque chose va créer une tension dans le corps, déjà, par exemple. L'idée d'aimer quelqu'un va créer un sourire ou une peur, parce que peut-être qu'on craint d'aimer les autres, ou quelqu'un en particulier. que je veux souligner là, c'est que l'expérience qu'on appelle l'expérience d'amour est antérieure à ces pensées-là.
Oui, ça, d'accord, je suis d'accord.
Et là, ensuite, c'est, y a une pensée qui émerge, « Oh, je l'aime !» Et puis, il y a accrochage. Ça colle à cette pensée. Elle est crue. Parce que si juste la pensée passe, « Oh, je l'aime !» Et puis, pof, elle disparaît comme passent les nuages, il ne se passe rien. Il faut qu'elle soit accrochée.
Oui,
il faut qu'elle soit crue.
Elle est accrochée parce qu'on a envie de continuer ce plaisir de sensation.
Oui, par exemple.
Par exemple.
Mais elle est accrochée parce qu'elle est accrochée, tout simplement. Ça s'accroche, ça colle.
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de ça?
Tu le regardes.
Je le regarde.
À partir du moment où le regard se pose, quand je dis tu, c'est pas toi, c'est pas un moi qui va regarder, hein, c'est le regard se pose dessus. À partir du moment où le regard se pose sur la pensée « Oh, je l'aime » et sur les conséquences corporelles de cette pensée saisie, crue, c'est comme pour la colère d'Aste. À un moment donné ou à un autre, ça va révéler sa vraie nature. C'est-à-dire que les pensées associées, ah, « je vais essayer, je vais trouver le bonheur, j'ai construit une famille, etc. etc. » par exemple, ou je sais pas quoi, moi, et les sensations associées, la roche, ça y est, j'ai enfin l'expérience que je voulais faire et ça va durer le restant de mes jours. En fait, tu vois ce que je veux dire. Toutes les idées, toute l'histoire qu'on se raconte par derrière, ouais, va pouvoir apparaître aussi. À partir du moment où on est vraiment avec ce qui est là, là maintenant, ce qui approche.
En fait, on le voit comme quelque chose d'étranger. Il faut vraiment le voir.
Non, pas d'étranger.
C'est une pensée qui monte et puis on va la traiter vraiment de la même manière que les autres, c'est-à-dire on va la regarder.
Pas quelque chose d'étranger. Souviens-toi l'exemple que je donnais. Comme un enfant qu'on prend dans ses bras.
Oui.
Zéro distance, complète implication.
Mais justement, parce qu'il y a désidentification, il y a un moment.
Absence d'identification.
Il y a absence d'identification. Mais il y a forcément un moment où on va s'éloigner de la pensée avant de l'embrasser, parce que ça va être une action de volonté d'embrasser la pensée.
Non.
Parce que parce que je vais me juger, je vais me dire, ah je l'aime, ah j'ai pensé que je l'aimais, donc franchement c'est loin. Enfin ça va être un truc comme ça, c'est...
Si tu commences à critiquer, franchement j'aurais pas dû penser ça, vraiment pourquoi je m'accroche à cette pensée, d'abord c'est même pas vrai, je l'aime pas, d'ailleurs l'amour c'est pas ça, ça c'est juste un discours mental,
ouais,
qui a besoin d'être regardé pour ce qu'il est, un discours mental, tu le laisses passer, c'est une histoire qui se raconte. Elle n'a pas plus de réalité que tout le reste.
Non, mais ça va être « Ah, je l'aime, je vais voir tout de suite que j'ai eu une pensée et je vais essayer de prendre la distance. »
Tu n'as pas besoin de prendre de la distance. C'est pas ce que je propose. Ce que je propose, c'est d'être avec.
Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je...
Tout de suite, tu regardes, tiens, mais quelle est la sensation que ça crée dans le corps quand ça pense « Je l'aime ».
Ouais.
Ah, comment c'est ? Ah, puis ce je l'aime là, tiens, mais c'est juste une pensée en réalité. Quelle est sa réalité? Quelle est sa vérité à cette pensée? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Qu'est-ce que j'en sais?
Ouais.
Mais même sans les poser les questions, toi, au début on pose des questions par exemple, mais à force ça se fait tout seul.
Je pense qu'au début, quand on est débutant, on va essayer de se désunir de la pensée.
C'est dommage.
Enfin, on va peut-être le faire en deux temps, la désunion, et puis après, on va...
Faut peu importe. Fais comme ça fonctionne pour toi, de toute façon, c'est pas important. Mm-hmm.
Le fait d'être avec cette pensée, tiens, je l'aime, est-ce que ça la dissout de lui donner automatiquement un sens d'irréalité, de rêve?
Mais ça a une réalité existentielle. Quand tu es en colère, ça a une réalité existentielle. Et quand tu ressens de l'amour, ça a une réalité existentielle. Mais ce n'est plus pris pour ma réalité, pour la réalité, pour ma vie, tu vois. C'est relativisé en ce sens qu'il est vu que c'est une réalité existentielle et non pas définitive.
Oui, et comme ce n'est pas entretenu par le mental, ce n'est pas ressassé, etc., comme par exemple la colère ne fait que passer. Donc on peut dire la même chose avec, le sentiment amoureux ou affectif ou...
De toute façon, je distinguerais le sentiment amoureux de l'amour.
Ça me paraît incompatible, vachement.
Il est sans cesse nouveau, l'amour que tu ressens pour quelqu'un. C'est pas du rabâché.
Oui, forcément, si tant que c'est pas entretenu par le mental, tout est toujours nouveau.
Oui. La colère que tu ressens à un moment donné, c'est pas la colère que tu as éprouvée hier, même si elle est en lien avec celle d'hier, d'une manière ou d'une autre. C'est pas la même, c'est différent. L'amour que tu ressens pour ton mari à 10h01 du matin, c'est pas celui que tu ressentiras à 10h05. Ni même à 10h01 et 10 secondes. Ça change tout le temps. On a l'impression que c'est toujours la même chose, mais c'est en réalité, c'est pas vrai.
Non. La différence, c'est que ça change dans la liberté plutôt que dans... Oui.
On arrête de figer les choses. Les choses ne sont pas figées et elles ne sont pas appropriées. Elles n'appartiennent pas à quelqu'un. Il y a de l'amour qui s'exprime, qui se manifeste de telle manière.
Oui. En totale liberté, en fait.
Sans, oui.
Sans attente, sans peur, sans...
Oui. Et s'il y a de la peur qui apparaît, bah, elle est vue pour de la peur qui apparaît. En totale liberté.
Et l'amour pour les enfants. L'amour pour les enfants, c'est quelque chose qui... Alors que vis-à-vis d'un conjoint, on peut penser que s'il y a des mots des bols, l'amour pour les enfants, on peut imaginer que c'est...
Pareil.
Mais il y a des mots des bols aussi. Pour des petits enfants. Je sais pas. Mais.
Des fois, on a envie de les tuer. Soyons ouais. Clairs. Hein. Enfin, Damien, il s'était déjà élevé quand tout ça s'est produit. Mm. En tout cas, en tant que parent, des fois, on a envie de tuer nos gosses tellement ils nous sortent partout, quoi. Tellement c'est insupportable ce qui se passe. Mm. Je sais pas si c'est arrivé à tous les parents, mais je pense que c'est arrivé à plus d'un. J'en suis même sûr.
Et c'est pas une pensée, quand vous pensez jeune, les enfants, il y a quand même. Alors,
mais ils sont pas là.
L'amour éprouvé pour les enfants, on le perçoit quand même plus fort que l'amour pour tout un chacun. Et pourtant, c'est qu'une pensée alors. C'est une pensée où le fait qu'on perçoit plus d'amour pour ses enfants que pour le collègue du coin, c'est quoi
pas
c'est
même
la
amour.
Pensée.
Je dirais pas que c'est plus, c'est différent. Je dirais pas que c'est plus.
Mais ça, cet amour différent, c'est un amour de pensée ou c'est. Parce que c'est, il y a forcément une. Si l'amour est absolu quand on est dans l'être T, ou dans l'être, peux-tu avoir différentes formes?
Mais là, tu me parles d'un amour, de l'amour en soi, et puis après, tu me parles des différentes formes de ce qu'on appelle l'amour sur Terre.
Oui,
alors, ça n'a rien à voir.
D'accord.
Ça n'a rien à voir.
Mais
ça a rien, mais.
Les formes d'amour qu'on a sur Terre sont des formes pensées.
J'ai pas entendu ce que.
Ce ne sont pas forcément des formes pensées, c'est autre, aussi des formes ressenties.
Mais évidemment que c'est aussi ressenti. Évidemment.
Et puis pensées.
Là, c'est un petit peu. C'est difficile à répondre comme ça, parce que si tu veux. Pour moi, tout est une pensée.
Ouais.
Le monde est une pensée. Le corps est une pensée. Une sensation est une pensée. Mmh. Donc, en ce sens-là, tout est une pensée. Maintenant, si on parle au niveau existentiel, comme je disais tout à l'heure, généralement, l'expérience de l'amour apparaît avant la pensée « je l'aime ».
Oui, oui. L'expérience d'amour pour les enfants va passer avant le...
Bien sûr.
Et l'amour pour le collègue, bon, bah, ça passera aussi avant, mais c'est sûr.
Oui.
Et oui, alors, ces nuances de ressenti.
Mais c'est juste le foisonnement de la vie qui s'exprime comme ça.
De même qu'on va connaître, si jamais on arrive à être éveillé, on va connaître les douleurs, les chagrins, le bonheur et la joie. Là, on va ressentir différentes modalité de ce sentiment, enfin de cette émotion.
Évidemment, évidemment.
D'accord. Moi, je viens de...
C'est différent. C'est, à chaque fois, ça va être différent selon les personnes, selon les moments, les situations, bien sûr.
Tu as dit tout est une pensée, le monde.
On pourrait dire tout apparaît de soi-même, tout apparaît, tout est une apparition, apparaissant apparemment. Si tout est une construction mentale, on pourrait presque dire, parce que même ce que tu vois. Vert. Qu'est-ce qui me permet de dire vert? Qu'est-ce qui voit vert? C'est pas les yeux qui voient vert. Encore qu'il y a des cônes, des bâtonnets, etc. Mais il faut qu'il y ait un processus physiologique dans le cerveau. Tu mets des yeux sur une table, il voit rien, quoi. Il faut plus que ça.
Mais là, c'est plus de l'ordre de la pensée, justement.
Enlevez mon pensée, mais c'est une construction.
Ça peut pas être une sensation? Parce que je sens là de pensée, entre guillemets.
Ce que je veux souligner là, c'est que même une sensation physique a besoin d'un cerveau pour être ressentie, pour être analysée. On pourrait dire c'est une sensation douce, un fourmillement, pour éprouver une douleur, par exemple.
Le cerveau ne fait pas que penser et analyser.
Non, il ne fait pas que penser et analyser. C'est des impulsions électriques à l'envers.
Médicalement, un cerveau qui s'est arrêté de fonctionner, l'aide pas encore. Parler de sensations, de ressentis, etc.
L'être, oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'il m'arrive souvent d'être vraiment vide, sans pensée, et d'être, au contraire, justement, parce que je suis sans pensée, avec des sensations extraordinaires,
Oui.
Parce que le fait d'arrêter le mental, justement, ça ouvre la porte à toutes les perceptions.
Le fait que le mental s'arrête, c'est pas toi qui arrêtes le mental.
Oui, oui. Le mental s'arrête, j'ai l'impression d'être dans quelque chose, mais bon, on va dire que non. Mais parfois, l'impression quand même de choisir.
Mais on regarde ça de près.
Illusion. Admettons. Ça ouvre la porte à un autre monde. De lien avec. À ce moment-là, justement, le regard crée un lien avec.
Évidemment, quand je dis que tout est une pensée, tu peux pas concevoir cette pensée comme les pensées qui apparaissent dans le cerveau habituellement. Puisque dans cette assertion, qui est bien sûr qu'un mot, c'est juste une façon de dire les choses. Cela qui pense cette pensée qui crée le monde n'a pas de cerveau. Évidemment que ça n'a rien à voir avec un cerveau, celui duquel apparaîtraient des pensées. À boucler de mon pensée, je vais arrêter de l'utiliser d'ailleurs dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est une pensée.
Un rêve, c'est peut-être plus juste. Parce qu'un rêve fait appel à toutes sortes de perceptions.
C'est une apparition. Ça apparaît. On peut dire un rêve.
tu nous as fait revenir à la présence. Oui, c'est comme si c'était toujours un peu derrière. Et dès qu'il y a une crispation ou une pensée, on peut revenir. On peut revenir. Présence à cette tranquillité qui est là, mais c'est comme avant et derrière. C'est comme si c'était un mouvement mental encore. Et ça repose. Quand il y a une crispation, on peut voir et comme ressentir la présence qui est.
Et si tu regardes quand tu es en présence de cette présence pour mettre des mots dessus, quel est le mécanisme qui se passe qui fait que ça vient se cristalliser, ça vient se contracter?
C'est comme un mouvement.
Oui, qu'est-ce qui crée ce mouvement? Est-ce quelque chose qui crée ce mouvement ou est-ce qu'il apparaît comme ça, tout simplement? Ce qui est possible aussi, d'ailleurs. Comment ça se passe?
C'est comme un automatisme, c'est des pensées projetées vers quelque chose pour faire, pour... Comme s'il y avait quelque chose dehors.
Qui attire?
Oui, qui semble promettre quelque chose.
Mais c'est constaté. C'est constaté. Et à partir du moment où tu le constates, est-ce que le mouvement est aussi fort quand il est constaté?
Il peut être fort, mais il se détend.
Il se dénoue plus vite. Il se détend. La prise n'est pas la même. La prise n'est pas la même. Ça colle pas autant, quoi. Parce qu'il est vu que cette promesse est fallacieuse, tu vois, si elle est trompeuse. Donc, tu dis, il y a attirance, il y a comme une promesse de quelque chose, tu vois. On veut y aller, on va. Ça va y aller, ça va s'agripper. Mais si c'est constaté, il est vu que c'est juste un mécanisme que, il y a une attirance et pouf. Ça perd de son intensité, ça se défait plus vite parce que il est vu que en réalité, cette promesse est une illusion. Enfin, je ne sais pas si tu le perçois, mais...
Je vois que ça crée une tension.
Mmh. Oui, ou bien on voit que ça crée une tension qui n'est pas intéressante. Mais qu'en est-il de la promesse ? Ce que tu disais tout à l'heure, il y a attirance, c'est comme s'il y avait une promesse. Quelque chose d'intéressant, hein ?
Oui.
Quand le mouvement est constaté, que devient la promesse ? Est-ce qu'il y a toujours l'idée que cette saisie promet quelque chose de vraiment chouette ? C'est inconfortable. Donc il est vu que la promesse est trompeuse. Donc forcément ça s'effrite. L'attirance est moins importante.